à la mémoire bien-aimée du président John Fitzgerald Kennedy. Françoise Giroux écrit depuis Washington. Il était le chef d'une équipe, non le roi d'une cour ou la potiche d'un conseil de ministres. Le chef d'une équipe d'hommes jeunes, affamés d'action, follement dévoués à travers lui, à leur pays et à ce qu'ils tenaient pour sa véritable grandeur. Et miraculeusement, semblait-il, cette équipe, cet homme, avait disposé des instruments de la puissance à la tête du pays le plus puissant du monde, avant que ne soient usées leur passion, leur enthousiasme et leur foi dans le progrès. Est-ce cela qui ne pouvait durer ? Est-ce cela que les fossoyeurs ont enterré en même temps que John Fitzgerald Kennedy et qui ne brûle plus que dans la flamme du souvenir ? Dans la petite ville de Washington, où bat le cœur troublé du monde occidental, il ne reste plus aujourd'hui de ce qui fut un immense espoir que des hommes ravagés de chagrin, une équipe disloquée. Ensemble, ils avaient tenté de donner des ailes à leur pays et peut-être allaient-ils en un second temps réussir. Décapités, ils ne sont plus que des individus qui, sans doute, n'ont pas fini de faire parler d'eux, que la tristesse rapproche encore, mais que la ferveur ne soude plus. L'Express, 28 novembre 1963. Quelques jours plus tôt, le 22 novembre, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, tombe sous les balles d'un tireur alors qu'il prend part à un cortège motorisé dans les rues de Dallas. Moins d'une heure après le constat du décès, le vice-président Lyndon Johnson est assermenté à bord de l'avion présidentiel. À côté de lui, Jackie Kennedy se tient droite, son tailleur maculé du sang de son mari. Elle exprime la quintessence de la souffrance et de la dignité pour cette photo qui fera le tour du monde. La scène est historique. Deux heures plus tôt, elle a vécu l'incompréhensible. Elle a vu son mari s'affaler soudain sur elle, la tête explosée par une balle. Elle a rampé sur le coffre de la voiture dans un réflexe fou pour tenter de récupérer des morceaux de cervelle. Elle a tenu le président, inerte, sur ses genoux, tentant de refermer cette plaie béante pendant les 4 minutes qui ont conduit la limousine à toute allure vers l'hôpital le plus proche. Elle est restée prostrée, muette, dans un couloir, pendant que les médecins risquaient un geste vain, une trachéotomie pour tenter de le garder en vie. Puis elle est entrée dans la salle, malgré l'opposition des infirmières, pour être là quand sa respiration cesserait. « C'est mon mari. » « Je suis couverte de son sang et de son cerveau », a-t-elle lancé. Elle a tenu alors sa main inerte pendant que les prêtres, arrivés en urgence, donnaient l'extrême onction au président des États-Unis. Président souriant il y a quelques minutes, accueilli triomphalement par les habitants de Dallas, et maintenant, là, sur un lit des urgences inerte, sanguinolent, assassiné. Le président est mort, confirment les médecins. Ce même 22 novembre 1963, le compositeur américain Leonard Bernstein travaille sur la préparation de l'un de ses concerts pour la jeunesse, ces fameux Young People's Concerts qu'il présente avec l'Orchestre Philharmonique de New York. La nouvelle de l'assassinat de Kennedy le bouleverse. À ce moment-là, confie-t-il, j'ai réalisé que je devais dédier cette pièce à la mémoire bien-aimée de cet homme que j'aimais beaucoup. Cela soulève tout le problème de ce que la musique avait à voir avec l'actualité, avec la politique, avec quoi que ce soit. Et elle n'a en réalité pas grand-chose, voire rien à faire, sauf comme une superbe capsule temporelle, une incarnation artistique d'une période donnée dans l'histoire. Bernstein admire en effet Kennedy depuis toujours. Les deux hommes sont nés et ont grandi dans l'État du Massachusetts. Tous les deux ont étudié à la prestigieuse université de Harvard, même s'ils ne côtoyaient pas les mêmes groupes d'amis. Bernstein n'a pas publiquement soutenu la campagne présidentielle de 1960 de Kennedy. Mais il est toutefois invité à participer au gala pré-inaugural. Et pour l'occasion, il dirige l'Orchestre symphonique national dans une pièce appelée « Fanfare » qu'il compose pour l'occasion. Toujours sur la liste des invités, Bernstein s'est rendu à de nombreuses reprises à la Maison-Blanche. Le compositeur et son épouse, Felicia, ont d'ailleurs dîné seuls avec le président, la première dame et un autre couple le 14 novembre 1961, le lendemain d'un dîner à la Maison-Blanche en l'honneur du grand violoncelliste Pablo Casals. En janvier 1962, c'est en l'honneur du compositeur d'origine russe Igor Stravinsky et de son épouse Vera que Felicia et Leonard assistent à un dîner à la Maison-Blanche. Deux jours après l'assassinat du président Kennedy, le dimanche 24 novembre, Bernstein dirige l'Orchestre philharmonique de New York et choisit pour cet hommage la deuxième symphonie de Mahler, Résurrection. C'est la première retransmission télévisée de la symphonie dans son intégralité. Puis le 25 novembre, Leonard Bernstein exprime son chagrin au Night of Stars Memorial à Madison Square Garden. Bernstein prend alors la parole pour justifier le choix de cette symphonie interprétée la veille. « Tout d'abord, pour la résurrection de l'âme d'une personne que nous aimons », précise-t-il. « Mais aussi pour la résurrection de l'espoir en chacun d'entre nous qui le pleure. » Puis il ajoute « Nous, les artistes, l'aimons pour l'honneur dans lequel il tenait l'art, dans lequel il tenait toute impulsion créatrice de l'esprit humain, qu'elle soit exprimée en mots, ou en notes, ou en peinture, ou en symboles mathématiques. » Mais surtout, il décide de lui dédier la symphonie dont il termine l'orchestration. La symphonie numéro 3, Kaddish. Les paroles sont de Leonard Bernstein, et en partie celles du Kaddish, prière hébraïque de louange en l'honneur de Dieu. Pour les juifs du monde, le mot Kaddish, ou sanctification, a une connotation très émotionnelle. Car c'est le nom de la prière chantée pour les morts au bord de la tombe, lors des occasions commémoratives et finalement lors de tous les services à la synagogue. Et pourtant, curieusement, il n'y a pas une seule mention de la mort dans toute la prière. Au contraire, il utilise trois fois le mot « chayim » qui signifie « la vie ». Le 10 décembre 1963, le compositeur du célèbre West Side Story crée sa nouvelle symphonie pour une première mondiale à Jérusalem. Repose-toi, mon père. Dors. Rêve. Laisse-moi inventer ton rêve. Rêver avec toi aussi doucement que possible. Et peut-être qu'en rêvant, je peux t'aider à recréer ton image et à l'aimer à nouveau. And perhaps in dreaming, I can help you recreate your image and love him again.